Chapitre 33. La chute d'un chef. Jamais on n'a vu pareil renversement de situation. Les six hommes en restent comme assommés debout. Chez Silver, le choc passe plus vite. Toute son énergie s'était focalisée sur le trésor. En un instant, il modifie ses plans et glisse à Jim un pistolet à double canon. « Prends ça, éveille au grain, » dit-il bas, tout en se déplaçant pour mettre la fosse entre lui et les autres. Et comme plusieurs boucaniers ont sauté dans le trou, dont il creuse le fond avec frénésie, il lance « Grattez, mes agneaux, il y a sûrement des truffes !»« Des truffes ?» s'écrie Mary. « Vous entendez, les gars? Il était au courant de tout. Ça se lit sur sa figure. »« Alors, tu te prends pour le capitaine ?» dit Silver. Cette fois pourtant, ils sont tous contre lui, mais aucun n'ose ouvrir les hostilités. Pensant faire avancer les choses, Mary y va de son petit discours. « Les gars, ils sont deux d'un côté, un invalide qui nous a roulé dans la farine, et ce morveux à qui je compte bien arracher le cœur. Maintenant, camarade !» Il va mener l'assaut, mais juste alors, crac, 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 trois coups de mousquet partent des buissons. Mary s'effondre tête en avant dans la fosse. Un autre mutin tourne comme une toupie avant de tomber tué net. Les trois autres prennent leurs jambes à leur cou. Aussitôt, des muscadiers voisins sortent le docteur, Gray et Ben Gunn, leurs mousquets encore fumants. Long John s'avance tranquillement vers le docteur. « Merci, docteur. Vous êtes arrivé à temps, » dit-il en s'épongeant le front. « Quant à toi, Ben, » continue-t-il en se tournant vers Ben Gunn, « tu es un joli coco. Quand je pense à la façon dont tu nous as bernés... » Tandis que tout le monde s'en retourne, le docteur raconte en quelques mots ce qui s'est passé. Au cours de ses errances sur l'île, Ben Gunn a fini par trouver le trésor, qu'il a transporté dans une caverne à flanc de colline. Le docteur a appris son secret le lendemain de l'attaque du Fortin. Avec l'accord du chevalier et du capitaine, il est allé trouver Silver et lui a remis la carte qui ne servait plus à rien. Ils ont également cédé le Fortin, ainsi que toutes les provisions, car la caverne de Ben Gunn contenait de la viande de chèvre salée en abondance. Ils ont tout laissé, explique-t-il, pour aller monter la garde auprès du trésor. Seulement le matin, en voyant le départ pour la chasse au trésor, il a su dans quelle délicate situation Jim se trouvait. Laissant le capitaine à la garde du chevalier, il a pris Gray et Ben Gunn avec lui pour se lancer à la poursuite des boucaniers. Grâce à la mystification de Ben Gunn qui les a considérablement ralentis, ils ont pu les distancer et s'embusquer. La caverne où ils arrivent est un endroit spacieux et aéré. Dans un coin, on aperçoit des montagnes de pièces et des piles carrées bâties avec des barres d'or. Combien de larmes et de sang a-t-il fallu verser pour l'amasser? Combien de bons bateaux envoyés par le fond? Combien de braves marins poussés sur la planche, les yeux bandés? Sans doute, Jim recevrait-il un accueil glacial si le docteur ne parlait aussitôt en sa faveur. Savoir qu'il ne faudra pas attendre le navire de secours dispose si favorablement le chevalier à son égard qu'il ne lui fait pas le moindre reproche. Quant au capitaine, qui est allongé devant un grand feu, il le fait venir près de lui. « Vous êtes un bon garçon dans votre genre, Jim, » lui dit-il. « Mais je ne pense pas que vous et moi nous reprendrons la mer ensemble. À mes yeux, vous avez un peu trop de l'enfant gâté. » Quel souper de fête ce soir-là pour Jim et ses amis. Jamais il n'y a eu convive plus joyeux ni plus heureux. Silver est là aussi, qui se tient un peu à l'écart mais mange de bon appétit, s'empresse de se lever dès qu'il manque quelque chose et se joint aux éclats de rire généraux. Exactement le matelot discret, poli, obséquieux de la première partie du voyage. Chapitre 34. Le lendemain, nous nous sommes mis au travail de bonne heure. Transporter une telle masse d'or sur presque un mile jusqu'au rivage puis sur 3 miles jusqu'à l'Espagnola n'était pas une mince affaire pour un aussi petit nombre de travailleurs. Les trois individus qui traînaient encore sur l'île ne nous ont pas beaucoup inquiétés. Une seule sentinelle postée en haut de la colline suffisait à nous protéger d'une attaque soudaine et nous avons pensé qu'en plus, ils avaient eu plus que leur compte de bagarre. Aussi la besogne est-elle allée bon train. Gray et Ben Gunn ont fait les allers-retours avec la barque tandis que les autres empilaient le trésor sur la plage pendant leur absence. Deux barres attachées avec un bout de corde faisaient une bonne charge pour un homme, de celles qui le forcent à marcher doucement. Pour ma part, comme je n'étais guère utile pour le transport, je me suis employée tout le jour dans la grotte à mettre les pièces de monnaie dans des sacs à pain. C'était une étrange collection qui ressemblait au magot de Billy Bones pour la diversité des monnaies, mais tellement plus grande et plus variée que je crois rien ne m'a jamais fait autant plaisir que de la trier. Des pièces anglaises, françaises, espagnoles, des louis et des georges, des doublons et des doubles guinées, des Moïdors et des Sequins, des portraits de tous les rois d'Europe des 100 dernières années, de curieuses pièces orientales frappées de ce qui ressemblait à des volutes de fil ou à des morceaux de toile d'araignée, des pièces rondes et des pièces carrées, des pièces percées d'un trou au milieu comme pour pouvoir les porter au cou. Toutes les sortes de monnaies du monde, du moins je le crois, devaient figurer dans cette collection. Pour le nombre, je suis sûre qu'elles étaient comme les feuilles d'automne, si bien que j'avais mal au dos à force de me tenir courbée, et au doigt à force de trier. Jour après jour, le travail s'est poursuivi. Chaque soir, une fortune avait été rangée à bord, mais une autre fortune restait encore pour le lendemain. De toute cette période-là, nous n'avons pas eu de nouvelles des trois mutinés survivants. Finalement, je crois que c'était la troisième nuit, le docteur et moi nous promenions en haut de la colline, d'où nous dominions les parties basses de l'île, quand le vent nous a apporté un bruit étrange, à mi-chemin entre hurlements et chansons, qui venait de l'ombre épaisse au-dessous de nous. Seules quelques bribes de voix ont frappé nos oreilles, suivies par le même silence qu'auparavant. « Le ciel leur pardonne, » a dit le docteur. « Ce sont les mutins. »« Tous sous, monsieur, » a dit la voix de Silver derrière nous. Silver, je dois le dire, jouissait d'une entière liberté, et malgré des rebuffades quotidiennes, semblait se considérer comme un serviteur privilégié et apprécié. Réellement, la façon dont il supportait les affronts était remarquable, tout comme la politesse sans faille qu'il manifestait pour essayer de se faire bien voir de tous. Pourtant, à mon avis, personne ne le traitait mieux qu'un chien, sauf Ben Gunn, qui avait terriblement peur de son ancien quartier-maître, et moi, qui avais des raisons de lui être reconnaissant. À ce propos, cependant, j'étais en droit de penser plus de mal de lui que quiconque d'autre, car je l'avais vu sur le plateau méditer une nouvelle traîtrise. Tout ceci a fait que le ton du docteur pour lui répondre a été rogue. « Sous ou en train de délirer » a-t-il dit. « Vous avez raison, monsieur, » a répondu Silver. « Pour vous comme pour moi, ça ne fait pas beaucoup de différence. Vous pourriez difficilement demander qu'on vous prenne pour un être plein d'humanité, j'imagine, » a répliqué le docteur avec une grimace de mépris. « De sorte que mes sentiments risquent de vous surprendre, maître Silver. Mais si j'étais sûr qu'il délire, et je suis certain qu'un des trois au moins a la fièvre, je quitterai le camp. » Et quel que soit le risque pour ma carcasse, j'irai leur porter assistance. Je vous demande bien pardon, monsieur, mais vous auriez bigrement tort, a dit Silver. Vous y perdriez votre précieuse vie, croyez-moi. Je suis de votre côté à présent, la main et le gant, et je ne voudrais pas voir notre troupe affaiblie en étant privée de vous, alors que je sais tout ce que je vous dois. Mais ces hommes, là en bas, ils sont pas capables de tenir parole, même pas en supposant qu'ils le voudraient. Et en plus, ils croiraient pas que vous, vous pourriez tenir la vôtre. « Non, a dit le docteur, tandis que vous, vous êtes homme à tenir vos promesses, nous le savons. » Ce sont à peu près les dernières nouvelles que nous avons eues des trois pirates. Juste une fois, nous avons entendu un coup de feu lointain. Nous avons supposé qu'ils chassaient. Un conseil s'est tenu et nous avons décidé qu'il fallait les abandonner sur l'île, pour l'immense joie, je dois le dire, de Ben Gunn, et avec la forte approbation de Gray. Nous avons laissé un bon stock de poudre et de balles, la réserve de chèvres séchées, quelques médicaments et quelques autres objets utiles, outils, vêtements, une voile de rechange, une brasse ou deux de cordes et, sur la demande expresse du docteur, une jolie provision de tabac. C'est la dernière chose que nous avons faite sur l'île. Auparavant, nous avions fini de transférer le trésor et nous avions embarqué assez d'eau et le reste de la viande de chèvre en cas de besoin. Enfin, un beau matin, nous avons levé l'ancre, ce qui était à peu près tout ce que nous étions capables de faire. Puis nous sommes sortis de la crique nord en arborant les mêmes couleurs que celles que le capitaine avait levées et défendues à la palissade. Les trois gaillards avaient dû nous surveiller de plus près que nous le pensions. Nous en avons bientôt eu la preuve. Pour franchir la passe, il a fallu venir près de la pointe sud et là nous les avons vus, agenouillés tous les trois ensemble sur une flèche sablonneuse, les bras levés dans un geste de supplication. Cela nous a fait mal au cœur de les laisser en si pitoyable situation. Mais nous ne pouvions pas risquer une nouvelle mutinerie. Outre que les ramener au pays pour les envoyer à la potence, aurait constitué un acte de gentillesse bien cruel. Le docteur leur a dit où trouver les provisions que nous avions laissées. Ils ont continué à nous appeler par nos noms et à nous supplier, pour l'amour de Dieu, d'avoir pitié de ne pas les laisser mourir dans un pareil endroit. Finalement, voyant que le bateau continuait sa course et qu'il arrivait hors de portée de voix, l'un d'eux, je ne sais pas lequel, s'est mis debout avec un cri rauque, a épaulé son mousquet et a lâché une balle qui a sifflé au-dessus de la tête de Silver avant de trouer la grand voile. Après ça, nous sommes restés à l'abri du bastingage. Quand j'ai regardé de nouveau, ils avaient disparu de la bande de sable, laquelle n'était pratiquement plus discernable à cause de la distance. Ainsi se termina cet épisode, et avant midi, le plus haut piton de l'île au trésor avait plongé dans le bleu de la mer, ce qui m'a causé une joie inexprimable. Nous étions si justes en hommes que chacun à bord a dû mettre la main à la pâte. Seul le capitaine est resté allongé sur un matelas à la poupe, d'où il donnait des ordres, car s'il avait bien récupéré, il avait encore besoin de repos. Nous avons mis le cap sur le port le plus proche de l'Amérique espagnole, car nous ne voulions pas risquer la traversée sans un nouvel équipage. De fait, quelques vents contraires et une paire de fortes brises nous ont laissés complètement épuisés avant même de l'atteindre. C'est juste au crépuscule que nous avons jeté l'ancre dans une belle baie abritée dans les terres. Nous avons aussitôt été entourés de barques pleines de nègres, d'indiens et de métis qui vendaient des fruits et des légumes et se proposaient de plonger pour une piécette. La vision de tant de visages souriants, surtout ceux des noirs, la saveur des fruits tropicaux et surtout les lumières qui commençaient à s'allumer en ville formaient un contraste enchanteur avec notre séjour sinistre et sanglant sur l'île. Le docteur et le chevalier sont allés passer la soirée à terre en m'emmenant. Ils y ont rencontré le capitaine d'un navire de guerre anglais, ont engagé la conversation avec lui, sont montés à son bord et, pour faire court, y ont passé le temps de façon si plaisante que le jour se levait quand nous sommes revenus à l'Espagnola. Ben Gunn était sur le pont, et dès que nous sommes montés à bord, il a commencé avec d'extraordinaires contorsions à nous faire des aveux. Silver s'était enfui. Il avait aidé à s'échapper quelques heures plus tôt dans une débarque venue du rivage. Il nous a certifié qu'il avait agi ainsi pour sauver nos vies, qui auraient été forcément en danger si cet homme avec une jambe était resté à bord. Ce n'était pas tout. Le coq n'avait pas filé les mains vides. Il était parvenu à percer une cloison et à s'emparer d'un sac de pièces d'or d'une valeur de peut-être 300 ou 400 guinées pour l'aider à continuer ses voyages. Je pense que nous avons tous été contents d'être quittes avec lui à si bon marché. Ensuite, pour faire court, avec une longue histoire, nous avons recruté des matelots, nous avons effectué une bonne traversée de retour et l'Hispaniola a rejoint Bristol au moment où Mr. Blandy commençait à envisager d'armer un navire pour nous venir en aide. De tous ceux qui avaient embarqué, elle ramenait 5 hommes seulement. L'alcool et le diable s'étaient chargés des autres. À cette différence près tout de même, que notre situation n'était pas aussi mauvaise que celle de ce bateau dont la chanson disait « Avec un seul homme d'équipage en vie, quant à 75, ils étaient partis ». Chacun de nous a reçu une bonne part du trésor et l'employait sagement ou follement selon sa nature. Le capitaine Smollett est désormais retraité. Gray n'a pas seulement épargné son argent, mais le désir l'a pris soudain de progresser socialement. Il a appris sérieusement son métier de marin. Il est actuellement second sur un navire dont il est copropriétaire. Marié en outre et père de famille, Ben Gunn a reçu 1 000 000 de livres qu'il a dépensé ou perdu au jeu en 3 semaines, ou pour être plus précis, en 19 jours, car il est revenu mendier le 20e. On lui a alors donné un poste de gardien, juste comme il le craignait dans l'île. Il est toujours en vie, grand favori des gosses du pays, quoique souvent victime de leur moquerie. Il se fait aussi apprécier comme chanteur à l'église le dimanche et les jours de fête. De Silver, nous n'en avons plus jamais entendu parler. Ce formidable marin avec une seule jambe a fini par sortir complètement de ma vie. J'ose m'imaginer qu'il a retrouvé sa vieille négresse et qu'il vit agréablement avec elle et Captain Flint. C'est à souhaiter, je suppose, car ses chances de connaître une vie agréable dans l'autre monde sont très minces. Autant que je sache, les lingots d'argent et les armes sont toujours un endroit où Flint les a enterrés. Pour ceux qui me concernent, ils y resteront à coup sûr. Même la force ne me ferait pas retourner sur cette île maudite. Et les pires de mes rêves sont ceux où j'entends les vagues marteler ses côtes et où je finis par m'éveiller en sursaut dans mon lit avec la voix perçante du capitaine Flint qui hurle à mes oreilles. « Pièce de 8 !»« Pièce de 8 !»